Bienvenue, bienvenue à tous les visiteurs que nous avons. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Vous savez, plus je l'étudie, et ça n'est quand même pas depuis hier, et plus je suis épatée de ce que l'on peut en retirer et des richesses qui nous sont données pour que notre vie soit transformée. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier parce que nous nous tenons devant toi. Nous sommes assis dans ta présence. Toi, tu es en nous. Et je te demande, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation sur chacun d'entre nous. Donne-nous de voir, mon Dieu, ce que tu as comme héritage pour nous. Donne-nous de comprendre les choses spirituelles, les choses qui t'appartiennent, les choses d'en haut. Donne-nous, mon Dieu, de connaître ton amour, quelles sont les dimensions. Seigneur, nous nous attendons à ce que cette prière soit exaucée dès maintenant et nous repartirons changés par ta parole. Amen. Alors, dis à ton voisin, je suis prêt. Rien ne me distraira. Alors, je ne sais pas si je vous donne tout de suite le titre. Je ne sais pas. Si tu veux aller au quatrième, appuie sur le bouton du quatrième. C'est ça le titre. Comment ils vont le faire rentrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Si tu veux aller au quatrième, appuie sur le bouton du quatrième. Est-ce que ça vous donne envie d'en savoir un peu plus ou pas? Ok. Alors, d'abord, Matthieu chapitre 13. Versets 18 à 19. Vous dites, mais c'est pas possible. Où elle va avec son histoire de quatrième et de bouton du quatrième et... Ben, on va aller plus haut, justement. On va mieux comprendre la parole. Vous avez trouvé Matthieu, chapitre 13, versets 18-19. Alors, pas maintenant. Hein. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, est-ce qu'il y en a ici qui sont venus pour écouter la parole? Amen. Lorsque quelqu'un, un homme, une femme, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'écouter. La Bible nous dit que si nous ne comprenons pas ce qui vient d'être dit, le diable va venir et va enlever la parole qui a été mise en nous. C'est-à-dire que quand nous venons et nous allons écouter, mais nous allons avoir cette disposition de cœur qui dit à Dieu, « Mon Dieu, je cherche à comprendre ». Alors, les vérités spirituelles, elles doivent être révélées, même si les mots sont dits dans un langage que nous comprenons, notre langue natale. Hein. Mais ça ne suffit pas que les mots soient intelligibles intellectuellement. Il faut que notre cœur soit disposé à comprendre. Et quand Dieu voit que nous sommes disposés à comprendre, là, il nous donne la révélation. Et combien je m'attends à ce que l'on reçoive la révélation de ce qui va être dit aujourd'hui. Et la Bible nous dit, alors, le diable ne peut pas nous enlever ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, mais pas intellectuellement, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous propulsera. Alors, regardez avec moi dans Genèse chapitre 1. Je vais continuer sur le message, sur les principes de la foi. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire que j'ai envie de tout dire. C'est simplement que le Seigneur a envie de continuer à apporter cette parole jusqu'à ce que nous la comprenions. Jusqu'à ce que nous la recevions, jusqu'à ce qu'elle soit tellement une avec nous que nous la mettrons en pratique. Alors tu peux dire, mais comment sais-tu si je l'ai reçue ou pas? Comment sais-tu si le Seigneur estime que j'ai suffisamment entendu parler de ce message de la foi? Très facile. Je ne l'aurai plus à cœur. C'est très simple. Si le Seigneur veut vous donner quelque chose, il me le met à cœur. Or, ce message, je ne peux pas m'en débarrasser. Et j'ai l'impression que j'ai passé l'année dessus, ce qui ne me dérangerait pas, parce que je raffole d'enseigner les Écritures sur ce message. Mais le jour où le Seigneur dit « ça y est, cette fois-ci, ils ont reçu le principe », eh bien, hop, il changera en moi le désir de vous apporter ces versets bibliques. Et alors, ceci dit, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres idées, j'ai plein d'autres idées de messages. Mais ce message de la foi, il faut qu'il soit ancré. Ces principes, il faut que nous les ayons. Amen. Alors, Genèse chapitre 1, nous voyons déjà au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est simple, hein. La Bible nous dit la terre était créée, mais la terre, c'est-à-dire que si vous aviez été envoyé sur Mars, eh bien vous n'auriez pas pu voir la terre parce que la Bible dit qu'il n'y avait rien, elle était informe, elle était vide, elle était couverte de ténèbres. Dans notre univers, on n'aurait pas pu distinguer la planète Terre. Dieu a vu des ténèbres. La seule chose qu'il a vue, c'est des ténèbres. Mais il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, le verset 3, Dieu dit. Dieu dit. Alors, en français, c'est « que la lumière soit ». « Light be ». En hébreu, c'est juste le mot « lumière ». Vous remarquerez que Dieu a parlé ce qu'il a voulu voir avant de le voir. Dieu aurait pu se trouver devant cette planète Terre qui était informe, qui était vide. Il y avait les ténèbres qui l'entouraient. On ne la distinguait pas dans cet univers. Et Dieu aurait pu dire « Ouh là là !» J'aime pas ça, moi. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il n'y a rien qui pousse, là. Oh, qu'est-ce que c'est sombre. Oh là là, j'en ai assez de cette situation. Et il aurait pu se plaindre. Mais Dieu n'a pas utilisé ses paroles pour gémir. Il n'a pas utilisé ses paroles pour se plaindre. Il a utilisé ses paroles pour changer ce qu'il voulait, ce qu'il voyait. Il a utilisé ses paroles pour avoir ce qu'il voulait. La première chose que Dieu a faite, c'est utiliser la parole. Ce qui est intéressant, verset 26, et ensuite 27 et 28, ensuite Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Ah ! Dieu appelle tout ce qu'il ne voit pas. Il l'appelle, il le parle avant de le voir. Pour le voir, Dieu le parle. Quand ça n'est pas là, Dieu le parle. Et après, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Ce qui veut dire, Dieu est en train de dire qu'il s'attend à ce que les êtres humains qui portent l'image et la ressemblance de Dieu opèrent de la même manière dans leur vie. Et la Bible dit, alors c'est là que tu domines. C'est là que nous dominons. Notre domination se trouve dans l'usage de la parole. C'est comme cela que Dieu l'a voulu. Y a-t-il quelque chose dans ton monde que tu veux voir changer ? Ça ne sert à rien que tu passes 1000 heures à travailler dessus, à te triturer l'esprit, même pas à t'inquiéter il va falloir que quelque chose sorte de ta bouche. Non pas quelque chose qui parle de ce qui existe déjà, mais quelque chose qui va appeler ce que tu veux voir à l'existence. Mes amis, la Bible dit, ça c'est régner, ça c'est dominer, ça c'est vivre comme Dieu vit. Et c'est à cela que nous avons été appelés. Il y a un enthousiasme qui... Regardez avec moi. On va voir l'exemple d'Abraham, tel qu'il a été donné par l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 4, versets 16 à 17. Il faut quand même se rappeler que l'apôtre Paul nous dit que la révélation qu'il a eue, il les a eues alors qu'il était dans le désert d'Arabie pendant ces 3 années. Il a été sauvé, il a reconnu le Seigneur Jésus comme étant son Messie. Il est né de nouveau, tous ses péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Et le Seigneur l'a amené, l'a attiré à lui-même. Il n'a pas été dérangé par Internet, il n'a pas été dérangé par le téléphone, il n'a pas été dérangé par les amis, il n'a été dérangé par personne, il était seul avec Dieu. Et là, il a reçu des révélations. Parce que l'apôtre Paul n'a pas vécu à l'époque d'Abraham, vous réalisez cela. Ceci dit, il a compris comment Abraham a vécu. Regardez avec moi donc ces versets. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Ben ça c'est bien parce que la Bible nous dit qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers. La mort a eu lieu, le testament a été libéré, il est ouvert. Tout le monde peut lire le Nouveau Testament et trouver quel est son héritage. Et ensuite, dans une communion individuelle avec Dieu, personnel, là je trouve l'héritage qui s'applique à moi seulement. Parce que chaque individu est unique, c'est-à-dire l'héritage qui a à voir avec ma propre destinée. Et la Bible nous dit que cet héritage-là, notre destinée, nous allons l'avoir par la foi. Rappelez-vous que ce que nous comprenons, le diable ne peut pas nous le retirer. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Alors, la grâce, très souvent les gens ont des difficultés à comprendre. La grâce parle du fait que Dieu est l'initiateur. Voilà. Tout ce qu'il nous a donné, c'est parce qu'il est l'initiateur. Il en a eu l'idée. Et ensuite, le deuxième aspect de la grâce, c'est que c'est gratuit. C'est tout. On ne peut pas travailler, on ne peut pas monnayer, on ne peut pas discuter, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas négocier avec Dieu pour recevoir quelque chose. On le reçoit uniquement par la foi parce que c'est gratuit. Mais notre part est de recevoir par la foi ce qui nous appartient. Vous avez quelque chose à recevoir ou ça y est, vous avez tout vu, tout connu, tout... Non, hein, bien sûr que non. Il est dit, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement, alors verset 17, je continue là carrément. Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Hein? Et qui appelle les choses qui ne sont point. Y a-t-il des choses qui ne sont pas dans ta vie? La seule manière de les recevoir, c'est par la foi. Alors, la Bible dit, il va falloir que tu les appelles. Et ce principe d'appeler quelque chose qui n'est pas dans ta vie, que Dieu veut te donner comme faisant partie de ton héritage, est tellement puissant que la Bible nous dit qu'il est même possible que quelqu'un ressuscite avec ce principe. Qui a été démontré quand Jésus est allé devant la tombe de Lazare et qu'il a dit « Sors !» Quoi que ce soit qui est mort dans ta vie, si ça appartient à ce que Dieu a pour toi, parce que Dieu ne nous donne pas ce qui ne nous appartient pas. C'est pour ça que nous nous étudions la Bible. Si quelque chose est mort dans ton corps, la Bible nous dit, tu peux l'appeler à l'existence. Et c'est ce principe que nous allons voir aujourd'hui. La Bible nous dit, Dieu appelle les choses. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « parole » et le mot « chose » en hébreu, c'est le même mot. Comment les choses sont créées ? Par la parole. Église la bonne nouvelle, dis donc, bravo. Une autre version dit « qui appelle à l'existence ». Appeler veut dire nommer. Qui nomme, qui parle, c'est-à-dire ça n'a rien de vague. Ce qui n'existe pas, pour que ça existe. Combien de gens ne font pas le processus inverse ? Parlent de ce qu'ils ont et pensent qu'en ne parlant que de ce qu'ils ont, ils vont réussir à avoir quelque chose de différent. Hey, arrête de rêver, c'est pas comme ça que ça marche. Plus tu parles de ce que tu as, plus tu établis ce que tu as. Et c'est valable pour les bonnes choses comme les mauvaises choses. Dieu appelle, nomme, vit quelque chose qui est mort. Que font les gens ? Parce que comme nous avons appris à vivre sans Dieu, ben qu'est-ce qui se passe ? Quand l'être humain a été séparé d'avec Dieu, ça a commencé par Adam et Ève, mais quand l'être humain s'est séparé d'avec Dieu, eh bien, il a utilisé les principes de Dieu pervertis. Si bien que ça s'est retourné contre lui. Oh là là, j'en ai assez de ce travail, j'en ai marre. Il n'y a jamais d'augmentation. Je n'ai jamais d'augmentation. Quand il y a un bon poste, ça me passe toujours devant. Tu as ce que tu dis. Pour que l'augmentation vienne jusqu'à toi, la Bible dit, il va falloir que tu nommes ce que tu veux voir. C'est-à-dire, oh gloire à Dieu, parce que toutes les augmentations viennent à moi. Seulement, on ne parle pas ces choses une fois que l'augmentation est arrivée. Nous parlons ces choses pour que l'augmentation vienne. Avant que l'augmentation ne vienne, nous articulons ce que nous voulons voir et nous disons « je l'ai ». Parce que sinon, quand Dieu a voulu la lumière, il a parlé quand c'était encore les ténèbres. Mais il ne voulait pas voir les ténèbres, il voulait voir la lumière. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a parlé ce qu'il voulait voir, lumière. Et la Bible dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Vous réalisez à quel point nous sommes libres ? Personne ne peut nous empêcher d'avoir ce que Dieu a pour nous. Tout ce qu'il faut, c'est que nous comprenions comment nous devons vivre et ensuite que nous voyons notre héritage, que nous voyons ce que Dieu nous a donné. Et une fois que nous voyons et que nous comprenons comment nous pouvons l'avoir par la foi, rien ne peut nous empêcher de l'avoir. Personne sur cette terre, sous cette terre, ni même au-dessus ne peut nous empêcher. Et la Bible nous dit, Abraham est un bon exemple. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, « Ah, tu sais, je n'ai pas encore vu ce que je voulais voir, mais je prie. » Et par là, oui, prier, c'est parler. Mais par là, qu'est-ce qu'ils entendent ? Ils disent, « Je suis en train de demander à Dieu. » Ça n'est pas de cela. Il y en a, ils doivent arrêter de prier. Il n'est pas ici question de demander à Dieu. Il est question ici de savoir ce à quoi nous avons droit. Ensuite, de le déclarer de manière à ce que les choses présentes changent. Dieu a besoin de notre collaboration parce qu'il a donné la terre à l'homme. Il a donné la terre à l'être humain. Et il y a un bail de 6 000 ans. Et quand il a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », qu'il domine, c'est-à-dire que tout ce qui fait obstacle à ma volonté dans ta vie, tu peux le dominer. Mais il va falloir que ça passe par tes paroles. Mais fais attention à ce que tu dis. Apprends le principe de l'utilisation de la parole. C'est énorme. Et puis il est dit, verset 18 de Romains chapitre, il y en a qui disent, oh, mais tu sais, je loue le Seigneur, je loue, arrête. Arrête de demander à Dieu de faire ton travail. Il y a des gens qui disent, je me demande pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça ne change pas. Il y a peut-être ici une clé. Arrête de demander à Dieu ce que Dieu attend que tu fasses, toi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi. Abraham est devenu. Ce n'est pas simplement qu'il a eu. Il n'a pas simplement eu la guérison. Il est devenu père. Il n'a pas simplement eu de l'argent, il est devenu riche. C'est énorme, quelqu'un qui devient. Et la Bible nous dit comment on peut devenir quelqu'un d'autre. Dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, ne limitons pas Dieu. La Bible nous dit, il a espéré contre toute espérance. Je vais revenir là-dessus. Une autre version dit « Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. » Et il devint ainsi. Une autre version dit « Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré et il a cru en Dieu. » C'est-à-dire que, oui, Abraham a vu dans le naturel, il y a une promesse qui lui a été donnée dans Genèse chapitre 15, et le Seigneur dit, eh bien je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Abraham avait 75 ans quand il a entendu la promesse. Mais quand Dieu lui a dit cela, déjà sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Physiquement. Et puis, les années ont passé, 11 ans plus tard, à 86 ans, Abraham et Sarah n'en peuvent plus, et ils décident de faire ce que beaucoup de personnes vont faire, c'est-à-dire régler elles-mêmes le problème. Ah, j'ai une promesse de Dieu. Il se trouve que rien ne se passe, je ne vois rien changer, donc je vais m'en occuper moi-même. Donc, en général, ça veut dire faire des compromis. Ou dans le langage biblique, donner naissance à Ishmaël. Et c'est tellement tentant que quand on ne voit rien, ah ben on va diminuer le standing. Ah ben tant pis, alors bon, je voulais ça, mais une pièce de moins... Je me débrouillerai avec. Hein? Je ferai avec. Quand on s'entend dire « je ferai avec », n'oublie pas que si quelqu'un peut te dissuader, c'est que la parole ne demeure pas en toi. Vous vous rappelez ce qu'il est dit dans Jean 15? Il a dit « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si quelqu'un réussit à te dissuader, c'est que la promesse ne demeure pas en toi. Quand la promesse demeure en nous, personne ne peut nous faire bouger de là. Mais il se trouve que la promesse qu'Abraham avait entendue 11 ans plus tôt, là, il est arrivé à 86 ans, 11 ans plus tôt, eh bien, elle n'était pas établie en lui. Il avait juste une promesse, il avait une bonne mémoire, il s'en rappelait, il ne l'avait pas oublié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? eh bien, il a écouté les conseils de sa femme. Et quelquefois, vous savez, les gens que le diable peut utiliser pour nous amener à faire des compromis, ce ne sont pas forcément des inconnus et des grands païens. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans notre entourage, quelqu'un qui a une influence sur nous et qui dit, bon, allez, laisse tomber. Arrête avec cette histoire-là de dîme, arrête avec cette histoire de croire que le Seigneur veut te donner cela ou que tu arriveras à tel niveau, arrête de croire cela. Et Sarah a dit à Abraham, tiens voilà, je te donne ma servante, et il a eu un enfant. Il a eu un enfant. Quand le Seigneur a vu cela, eh bien la Bible nous dit que pendant 13 ans, il y a eu silence radio. Le Seigneur a changé le nom d'Abraham en Abraham. Il a mis le H de son nom. Mais avant, le Seigneur lui a dit, tu sais, tu vas compter les étoiles du ciel. Toutes les étoiles que tu vois, il dit, je vais te rappeler. À chaque fois que tu vas voir les étoiles, Abraham, tu vas te rappeler que ma promesse est vraie. Et je vais te multiplier au point que l'on ne pourra plus compter ta descendance. Si bien que pendant des années, Abraham voyait sa femme et disait, oh là là, humainement il n'y a pas d'espoir. Mais espérant contre toute espérance, il y a deux sortes d'espoir. Il y a l'espoir que l'on a quand on voit les choses dans le naturel. Et il y a l'espoir que l'on a qui est supérieur quand on choisit de croire à la promesse de Dieu. Dans le naturel, il n'y avait aucun espoir à non seulement qu'il n'ait pas une descendance nombreuse, mais qu'il n'ait même pas un fils ou une fille. Mais ceci dit, à force de regarder les étoiles, vous imaginez que tous les jours, Abraham voyait Sarah, il voyait sa femme. Et puis tous les soirs, avant d'aller se coucher, il sortait de sa tente. Il peut faire chaud au Moyen-Orient. Il sortait de sa tente et là, il voyait un ciel brillant. Et puis un jour, à force de voir cela, de se rappeler, tout d'un coup, il a réalisé. Ça, c'est à moi, ça, ce que le Seigneur veut me donner. Je pense que, vous savez, ce n'est pas simplement assez de dire, c'est à moi que le Seigneur veut me le donner. C'est d'accepter que ce soit à moi. C'est d'accepter que j'en sois digne. C'est d'accepter que, et pourquoi pas moi, après tout? Pourquoi pas moi? Et tout d'un coup, à force de garder la promesse devant ses yeux, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Et la Bible nous dit que le Seigneur a changé le mot d'Abraham en Abraham. Et quand le Seigneur a changé le nom d'Abraham en Abraham, pendant 13 ans, il n'a plus rien dit. Et il a laissé Abraham se rappeler de qui il était le père d'une multitude. Vous réalisez. Alors, jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux juifs, quand quelqu'un est malade, il change son nom. Pour que la personne se voie différemment. Si vous êtes malade, eh bien, mettez devant vous une photo de vous bien portant. Et regardez cette photo et dites-vous à vous-même, voilà qui tu es. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il change encore le nom d'une personne pour que la personne cesse de s'attacher à cette identité de malade et puis s'attache à une identité de personne bien portante. Donc Abraham est devenu Abraham et le Seigneur pendant 13 ans l'a laissé regarder les étoiles. La Bible nous dit à 99 ans, le Seigneur est apparu à Abraham, l'a visité. Et il dit, maintenant, tu auras un fils. Wow, il lui avait déjà dit cela. Des années, 24 ans auparavant, il lui avait déjà dit cela. Mais cette fois-ci, Abraham avait la foi. Cette fois-ci, Abraham, à force de dire ce que Dieu disait, d'appeler les choses qui ne sont pas, Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Donc tous les matins, Abraham se levait et il entendait Sarah qui lui disait, non pas Abraham, mais père d'une multitude, comment vas-tu ? Au début, ça a dû lui faire un peu bizarre. Il a dit, ah, ok, d'accord, allez, c'est bon, arrête. Vous savez, quand c'est l'épouse, souvent, on dit encore plus, arrête. Non. Et puis, non, il est sorti de sa tente, et puis il a retrouvé des serviteurs, et puis les serviteurs ont dû apprendre à l'appeler père d'une multitude. Et je vous garantis qu'il ne devait pas y en avoir un qui rigolait. Parce qu'Abraham est celui qui employait 350 personnes minimum. Donc parmi les serviteurs et les employés, il n'y a aucun qui rigolait de devoir l'appeler père d'une multitude alors qu'il était vieux, que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants, qu'il n'allait pas retourner avec une autre servante et qu'il était impossible. Tous ont dû s'aligner sur ce que cet homme d'influence avait décidé. Dieu m'appelle père d'une multitude, je vous demande de m'appeler père d'une multitude. Je vais vous dire, il y a des prénoms qu'on devrait changer à des gens. Comment voulez-vous que les gens vous appellent ? Présentez-vous ainsi aux gens. Oh ! La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est comme cela que ma sœur s'appelle Élie ou Élisabeth. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Un an après cette visitation du Seigneur, un an après, presque, sa femme donnait naissance. C'est-à-dire que quand la foi a été établie et qu'Abraham a accepté de dire ce que Dieu disait, c'est-à-dire d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, de dire, au lieu de se présenter quand les gens lui disaient, alors, amène-moi tes enfants, vous savez, des visiteurs qui viennent, donne-moi tes enfants, ah non, je n'en ai pas. Ça n'est plus ce qu'il disait. Il disait, je me présente. Imaginez signer un contrat d'affaires. C'est un homme d'affaires influent, Abraham. Il disait, je suis père d'une multitude de nations. C'est même pas d'une famille nombreuse. C'est multitude de nations. Imaginez. Et donc, la réaction, c'est... Et puis, la deuxième réaction, c'est, je peux les voir. Et Abraham ne pouvait pas dire autre chose. Abraham ne pouvait. Il avait tellement regardé le ciel pendant ces années de silence-là. Il avait tellement regardé le ciel, il avait tellement compté qu'il ne pouvait plus dire qu'il ne les avait pas. C'était en lui. Il portait les nations en lui. Et donc, Abraham disait, vous allez voir, je suis père d'une multitude. Certainement qu'il y a des voisins qui ont dû dire, oh, tu sais, il déraille, c'est l'âge. Ça veut dire, quel que soit notre âge, il n'est jamais trop tard pour changer quelque chose qu'on n'aime pas. Jamais trop tard. Alors, je vous lis ce passage qui dit dans Ésaïe 46, 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » C'est-à-dire qu'avant qu'une chose soit, il dit ce qu'elle va être. Il y a tellement de choses à... Alors, c'est valable dans le naturel, c'est valable pour les bonnes choses que l'on veut voir. Nous les parlons à l'existence. Nous disons, je suis en parfaite santé. Ça, je le dis tous les jours, je bénis mon repas. C'est une des confessions que je fais pendant la bénédiction. Je déclare, je suis en parfaite santé. Grâce à Dieu, je suis en parfaite santé. Mais s'il y avait quelque chose, à un moment, il y avait quelque chose dans mon estomac qui était, je commençais à avoir des reflux gastriques et tout ça, et j'ai dit, il est hors de question. Hors de question. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déclare, avant de prendre mon déjeuner, mon estomac est en parfaite santé. Mais tu ne peux pas dire ça parce qu'il risque de brûler. Il est en parfaite santé. Je suis en train de dire ce que je veux voir. Je ne parle pas de ce que je ressens. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. J'utilise ma parole pour avoir ce que je veux. Ben, Job l'a fait aussi. Alors Job, le pauvre Job, hein, on a dit tellement de choses. Mais tous les malheurs qui sont arrivés à Job, il le dit. Je vous le lis dans Job chapitre 3, verset 25. Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça n'est pas simplement que Job était en train de s'inquiéter. Non, la Bible dit la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est-à-dire qu'il redoutait, il craignait tellement que ses fils désobéissent. Il craignait tellement que le Seigneur retire sa bénédiction, ben, qu'il finissait par le dire. C'est du style, oh, on s'en sortira jamais. C'est du style... Oh, à la fin, toutes les fins de mois, on est dans le rouge. Et devine quoi? Toutes les fins de mois, tu appelles les choses. Et en plus, qui sont? Et on établit et on reste. Si on veut sortir de cette fin de mois dans le rouge, il faut parler le vert. Ou le bleu ou le noir. Image numéro 1. Voilà, maintenant, nous l'avons. Alors, nous sommes dans l'ascenseur. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je suis allée dans un ascenseur et peut-être je voulais regagner ma chambre qui était au deuxième étage. Ici, on va utiliser le chiffre 4. Pourquoi? Parce qu'il y a une image avec le chiffre 4. Il y a une spirituelle. Je ne sais pas plus. C'est très, très simple. Hein? Mais hein? C'est ton étage. Eh bien, tout le monde chez Pascal, elle vous invite à prendre l'apéritif tout à l'heure. Attention au secret que vous livrez. Hein? Mais combien de fois... voilà, c'est tout bête. Hein? Mais j'appuie sur le bouton... Et je me souviens attendre dans l'ascenseur. Et j'attends, et je me dis, c'est pas possible, c'est pas au 4 qui va cet ascenseur, c'est au 105e étage, là. Je suis trop longtemps dans cet ascenseur pour ne pas être déjà arrivé. 4 étages, c'est quand même pas énorme. Même si on part pas en fusée, Ariane, faut quand même pas pousser. Ça prend juste allez, une minute et demie, peut-être, si on n'est pas arrêté au 3. Et puis, je me suis rendu compte que ben, j'avais appuyé sur le zéro. Non, mais vous me regardez comme si, attendez, là. Hein? Oui, mais je vais vous dire, c'est ce que nous faisons avec nos paroles. Nous voulons aller au 4 et on appuie sur le zéro. Et on se demande pourquoi ça ne bouge pas. La surprise... Quand tout d'un coup, peut-être que quelqu'un de l'extérieur arrive, parce que j'attends, je vais au 4e et... Alors bon, la porte s'ouvre et je suis encore au rez-de-chaussée. Parce que j'ai appuyé sur le bouton de là où je suis. Maintenant, quand je suis au rez-de-chaussée, je sais que c'est profond, hein, mais bon... Je suis au rez-de-chaussée, je veux aller au 4, j'appelle l'étage du 4, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton du 4. À amis visiteurs, ça peut être un peu plus profond que ça par moment. On a deux autres pasteurs qui peuvent nous aider. Mais c'est ce que l'on fait dans la vie. On reste au rez-de-chaussée parce qu'on parle le rez-de-chaussée et on se demande pourquoi on n'arrive pas à l'étage numéro 4. Pourquoi on n'arrive pas à monter? Pourquoi on ne s'en sort pas? Et puis il y a aussi ceux qui, c'est arrivé, hein, on veut aller au quatrième et on appuie sur le 2. Oui, mais tu comprends, moi je suis chrétienne, alors c'est tout à fait normal que si j'appuie sur le 2, j'arrive au 4. Hein? Moi, tu sais, je connais le Seigneur depuis longtemps, alors ça fait, je te dis pas, ça fait 25 ans que je suis née de nouveau, je t'explique. J'ai pratiquement passé toute ma vie assise sur la chaise dans un culte, alors je t'explique, j'ai le droit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Voilà le droit que nous avons. Et Jésus a utilisé ce principe encore et encore et encore et encore et encore et encore. Je vous lis par exemple dans Matthieu chapitre 4, verset 35. Ce jour même sur le soir, vous savez, il y en a qui disent « Je ne m'en sors pas, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. » Je ne sais pas, peut-être qu'il gagne 1500 euros. Il dit « Je ne m'en sors pas. » Ben oui, on ne peut pas s'en sortir. Mais pourquoi tu ne commences pas à parler le chiffre avec lequel tu t'en sors? Alors évidemment, si tu es habitué à gagner 500 euros, ne parle pas 10 000 euros. Parce que c'est quand même par la foi. Et la Bible dit... Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Et il faut avoir l'humilité de dire, eh bien, tu sais, j'en suis pas encore là. Je ne suis pas encore au fait de payer 100 000 euros par mois pour le ministère. Moi, j'en suis pas encore là. Et j'ai aucun problème à le dire. En revanche, il y a des chiffres qui ne me font pas du tout peur. Et je suis prête à signer. Ne me cherchez pas, vous me trouvez. Vous avez trouvé Marc chapitre 4 ? Est-ce que vous l'avez trouvé celui-là ? Vous savez, si vous comprenez ce dont on parle ce matin, ou ce dont je parle ce matin, votre vie, elle sera changée. Et c'est pour cela que quand un enfant naît, on ne l'appelle pas n'importe comment. On peut prophétiser son futur dans son prénom. On peut prophétiser des dons particuliers. Jésus dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous imaginez, vous ? Ça, c'est des vagues. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film là où on voyait un immense bateau style cargo. Il avait des grands containers à bord et il y avait des vagues de plus de 10 mètres. Et les vagues qui viennent à bord. Bon, là, ce n'était pas un cargo, c'était une barque. Hein. Il y avait quelques hommes, mais peu importe la taille du bateau, quand il commence à prendre l'eau... Le sentiment est le même pour tous. Au point qu'elle se remplissait déjà. C'est-à-dire qu'ils sont dans une tempête. Il y a des tempêtes dans votre vie ? Vous avez l'impression que vous êtes en train de couler ? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Et ici, et lui, en parlant de Jésus... Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Qu'est-ce qu'il faisait ? Il parlait ce qu'il y avait. « Que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ? C'est qu'il domine. » Faux ! Rien ne pouvait changer. Avec ce qu'ils disaient, ils allaient couler. S'étant réveillés, qu'est-ce que Jésus fait ? Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Et la suite, « Comment n'avez-vous point de foi ?» C'est-à-dire, vous rappelez que si la parole de Dieu demeure en nous et que nous la comprenons, le diable ne peut pas la retirer. Si on arrive à nous en dissuader, c'est que la parole n'est pas en nous. Ici, la parole que Jésus leur avait donnée, c'est « Allons à l'autre bord. Passons de l'autre côté. Lançons-nous dans l'aventure de cette construction. » Acceptons d'augmenter le personnel de cette entreprise, le nombre de salariés. Jésus nous donne une parole. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de dire, non, le Seigneur nous a dit que nous passerions de l'autre côté. Et les vagues, le niveau de la mer montait. Et ils étaient vraiment balancés dans ce bateau de bâbord, tribord. Et au lieu de dire le Seigneur a dit et de dire nous allons de l'autre bord, nous passons de l'autre côté, nous allons à l'autre bord, nous passons, nous sommes là, le Seigneur a dit que nous allons de l'autre côté, je dis nous allons de l'autre côté, nous sommes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont laissé le diable voler cette parole. Et ils ont commencé à parler ce qu'ils voyaient. Jésus, lui, n'a pas laissé le diable voler cette parole. Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'a réveillé. Il s'est réveillé. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il s'est... Hein ? Ça sert, hein ? Et il s'est réveillé. On l'a réveillé. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a parlé à l'existence ce qui n'existait pas. Quand Jésus a dit à la mer « silence », c'est parce qu'il voulait le silence, non ? Mais comment était la mer ? Calme ? Non ! Elle était agitée, elle était déchaînée, le vent soufflait, lui aussi entendait et voyait les mêmes choses que les disciples. Mais il a parlé, il savait qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il savait comment changer les choses. Il a appelé ce qui n'existait pas, le calme et le silence. Il a parlé à l'existence et les éléments ont obéi. Oh, tu n'arriveras jamais à rien. Combien d'enfants n'ont pas entendu cela ? Tu n'arriveras jamais à rien. Qu'est-ce qu'on fera de toi ? Ben, tu vas me le dire ce que tu vas faire de moi, maman. Tu vas me le dire ce que tu vas faire de moi, papa. Et puis, l'enfant grandit, et un jour, il a le choix, lui, de dire ce qu'il veut devenir. Abraham crut, espérant contre toute espérance. Il crut, et il devint. Et les gens, après, vous regardent et disent, c'est pas possible. Comment t'as fait, toi ? Toi, t'étais l'enfant chétif, t'étais l'enfant timide, tu étais l'enfant timoré, tu étais celui qui bégayait. Et tu es arrivé, cet homme-là, cette femme ? Mais la démonstration, ici. Image numéro 2, par exemple, vous êtes dans votre cuisine. Oh, j'aurais pu choisir un homme. Hein. Vous êtes dans votre cuisine, vous avez préparé le repas et vous voudriez que tout le monde arrive pour se mettre à table. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, vous voulez que votre fils, je ne sais pas moi, Timothée, vienne. Appelez-le comme vous voulez. Alors, vous avez le choix. Vous voulez qu'il vienne. Donc, vous pouvez vous plaindre. Oh, il n'est pas là. Voilà, il est 20h et il n'est pas là. Non, Timothée est dans sa chambre, juste à l'étage. Et Timothée a complètement oublié. Pour qu'il vienne, il va falloir que tu l'appelles. que tu le nommes. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu veux le voir venir? Si tu veux le voir dans le présent, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles. Timothée! Pourquoi Timothée n'est pas arrivé avant? Parce que tu ne l'as pas appelé. Parce que tu n'as pas parlé. Et puis, il y a une autre chose. C'est pourquoi, quand tu as appelé Timothée, Timothée est venu et non pas Simon? Parce que tu as eu ce que tu as dit. Donc, avec ce message-là, j'espère que vous allez voir que rien dans votre vie n'est impossible. Que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez que le Seigneur veut vous donner. Tout ce que le Seigneur veut vous donner, vous ne pourrez pas l'avoir, nous ne pourrons pas l'avoir autrement que par la foi. Mais la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Si vous comprenez le principe que je viens de vous enseigner maintenant et que vous le mettez en pratique, bien moi je vous dis, quelqu'un prend note et met une croix dans le calendrier, dans un an, on ne vous reconnaît plus. Dans un an, on ne reconnaît plus l'Église, la bonne nouvelle. Et très souvent, on dit, oh, pasteur, prie pour moi. Non, c'est à toi de parler dans ta vie. À toi de parler dans ta situation. C'est énorme. Espérance, contre toute espérance. Quoi que ce soit qui vous dise, tu ne peux pas, tu n'auras jamais, tu n'y arriveras jamais. Et dans le naturel, c'est vrai. Il ne s'agit pas de nier le naturel. Mais il s'agit d'utiliser un espoir plus grand et de dire « Oh que oui, je vais l'avoir parce que je vais l'appeler et personne ne pourra m'empêcher de parler. Je suis en bonne santé. Oh, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Mon corps est en bonne santé. » Quelqu'un dit « Tu mens. » Non, comment je pourrais mentir en disant ce que Dieu dit? Mes besoins sont pourvus au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Vous nommez le salaire que vous voulez faire. Et parce que vous appelez ces choses, Dieu va arranger les circonstances autour de vous. Ça veut dire, bah, un jour vous aurez un coup de téléphone, un autre vous aurez peut-être une idée. Un jour, eh bien, vous aurez peut-être une idée de vendre quelque chose pour acheter autre chose, que sais-je. Mais la parole que vous prononcez va faire bouger les choses dans les circonstances. Tu dis, oui, mais tu sais, mon mari, mon épouse, il n'y croit pas ça. Fais ta vie devant Dieu. Fais ta vie devant Dieu. Et laisse l'autre voir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et si tu conduis une plus belle voiture qu'elle, eh ben, tant pis. Si tu conduis une meilleure voiture que lui, une plus belle voiture, une voiture plus forte, tu sais ce qui fait bien rager les messieurs là, qu'une dame ait une voiture qui soit plus forte que la sienne. Eh ben, achète. Par la foi, marche avec Dieu, déclare, laisse le Seigneur t'amener cette voiture là. Laisse le Seigneur t'amener ta propre maison, qui est plus grande que celle que vous avez ensemble. Et un jour, vous amenez votre épouse dans cette maison, dit « Tiens, voilà, maintenant je vais te dire notre nouvelle adresse. » Comment tu l'as eu? Par la foi. Par la foi. Et peut-être qu'après, ben, l'autre il s'y mettra, il dira « Ah bon? Eh bien, moi aussi, je veux une maison alors. Moi aussi, je veux ajouter une maison à notre patrimoine. » Mais très souvent, on se cache derrière l'autre. « Ah, mais tu comprends, l'autre, il veut pas, l'autre, il veut pas. » Les principes fonctionnent. Donc moi, je ne sais pas ce que vous déclarez pour votre vie. Hein. Mais moi, je déclare. Tous les jours, je déclare qui je suis. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas mon âge. Hein? Ah ouais, merci, merci, merci. Tous les domaines de votre vie. Certains, ils disent, ah bon, mais quel âge elle a là? 35. Quel genre d'intelligence voulez-vous avoir? Quel genre de mémoire voulez-vous avoir? Oh, tu sais, les gens pensent, oh, la mémoire, c'est plus on vieillit, plus on la perd. Eh bien, continue à le dire et tu n'as même pas besoin de vieillir pour la perdre. Hein, tu l'as là. En revanche, j'ai une mémoire qui est longue et précise. J'ai un discernement profond. J'ai une intelligence rapide. Je rajeunis comme l'aigle. Je reçois les désirs de mon cœur et on nomme les désirs de notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? La parole, c'est nommé, c'est précis et je n'ai plus qu'à attendre. Ça veut dire qu'entre-temps, je ne change pas d'avis. Oui, mais tu comprends, la barque, elle est en train de... Ça n'a aucune importance. Je maintiens ces paroles-là. Alors, bonne pratique, et puis nous allons terminer notre culte en apportant au Seigneur nos offrandes, et vous comprenez pourquoi cette confession de foi a tout son sens. Cette confession de foi que nous parlons après. Bien, est-ce que, heureusement que le Seigneur ne m'a pas donné un autre message. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vraiment aimé ce message-là. Oh là là, c'est un régal parce que je prépare ce message, je me le remémore et je le revois et après je le prêche, je le réentends, c'est juste un délice. Tout ce que je fais réussit. Et ça, vous le croyez ça? Tout ce que je fais réussit.